PME Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Melloul, directeur associé d'Inextenso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous recevons Olivier Ouivet, CEO et cofondateur de WeLive. Bonjour Olivier.
Bonjour Pauline.
Alors Olivier, après un diplôme de l'ESCA en management et entrepreneuriat, vous cofondez d'abord en 2016 le réseau social des coureurs français WeRun. Gros succès, on le précise. Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisqu'en 2020, vous cofondez avec trois amis WeLive, une plateforme de gamification RH. Alors avant de nous parler de WeLive en détail, un mot sur votre ascension. Vous êtes passé par l'incubateur de start-up, le Tremplin, c'est bien ça ?
Merci pour le terme ascension, c'est plutôt flatteur. Mais effectivement, on a démarré avec mes associés, dont je parlerai par la suite, au Tremplin, qui est un incubateur de start-up basé dans le 16e arrondissement à Paris, spécialisé dans le sport.
Oui.
Et comme vous l'avez dit, on a démarré dans le sport. Nous, on est tous plutôt très sportifs et on a créé WeRun en 2016, réseau social de runners, trailers, qui n'était pas autant à la mode à l'époque. On a eu un peu de nez parce que c'est devenu le sport très tendance et ça a très vite bien marché. Mais on s'est rendu compte assez vite que ça ne se monétisait pas. Je pense qu'on pourra discuter de ces sujets-là par la suite, vu nos invités du jour. Mais on s'est rendu compte que ça marchait bien, mais que ça resterait quelque chose de plutôt embryonnaire. Mmh. Et on voulait créer une start-up. Mmh. Donc ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en parler avec WeLive sur la suite de l'interview.
Alors justement, depuis 2020, WeLive propose à ses clients des challenges connectés pour former et mobiliser leurs collaborateurs par le jeu. J'imagine que la crise du Covid a joué quand même dans la création de cette société, dans ce concept en fait.
Alors en fait, on a démarré en 2019, avant le Covid, avec la même équipe, Antoine, Augustin et François, mes associés, j'en parle parce qu'on était quatre et que sans eux, je ne serais pas là pour cette belle ascension, comme vous l'avez dit. Et on a démarré ça en 2019, donc le Covid n'avait pas encore commencé. Et on a tout de suite pensé au sport pour les collaborateurs. Puisque comme je vous l'ai dit précédemment, on avait une application B2C, donc Business to Consumer. On avait des dizaines de milliers de runners sur l'application, sauf qu'on ne la monétisait pas. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec du sport en entreprise ? Et donc, on a créé WeLive, qui s'appelait à l'époque WeMoveUp, quelques mois avant le Covid. Et on a commencé à vendre des challenges connectés à des entreprises type Natixis, Chanel, la Fédération Française de Rugby. Et patatras, le Covid est arrivé début 2020. Et patatras, pour nous, ça a plutôt été Eureka, parce qu'on en a profité, on a itéré, et ça nous a permis de nous lancer officiellement sur WeMoveUp, qui est devenu WeLive à la rentrée.
Et alors aujourd'hui, WeLive, c'est 150 000 participants au challenge, 350 challenges réalisés depuis 2021, une trentaine de salariés, 250 clients en France et à l'international. D'ailleurs, vous avez tout type de clients, tout type d'entreprises dans vos clients ?
Effectivement, on a de plus en plus de grands comptes, et on se focalise de plus en plus sur les ETI et les grands comptes, parce que les besoins ont changé aussi et le constat est que depuis 10 ans, la pyramide de Maslow globalement a changé pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'avant, les KPI, c'était salaire, vacances et pay, check. Aujourd'hui, c'est bien-être, fidélité, sentiment d'appartenance. Et on a décidé, nous, de mettre le paquet là-dessus et d'aller cibler ces boîtes Inextenso, par exemple, des groupes comme ça, qui mettent un peu de temps à se rendre compte de cette transition. Et les collaborateurs le savent très bien. Et nous, on est du côté des collaborateurs. On dit aux dirigeants, équipez-vous d'un outil qui va vous permettre en fait, de répondre à ces besoins pour que vos équipes soient fidèles, engagées et fières de bosser chez vous.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Alors, je vais prendre l'exemple de Pernod Ricard, qui est une société que tout le monde connaît. Je peux les citer, ils m'ont donné leur accord avant que je vienne. C'est une société qui est plutôt en avance sur ces sujets bien-être au travail, formation, fidélisation. Et donc, ça fait depuis 2020, donc depuis 4 ans qu'on les accompagne avec notre plateforme. Et l'objectif, nous, c'est de traiter de sujets sérieux. Ça peut être Octobre Rose, ça peut être la formation des managers, ça peut être la cybersécurité, l'IA, par une plateforme légère, par le jeu. Et donc, on utilise en fait la gamification pour faire monter en compétences les équipes, pour les engager sur ces sujets-là. Donc, concrètement, ça veut dire qu'à un moment de l'année, une structure comme Pernod Ricard ou une boîte du CAC 40 va se dire « J'ai des milliers de collaborateurs, je veux les faire monter en compétences sur un sujet comme la compliance. » Et bien, plutôt que de faire une formation web embryonnaire, poussiéreuse, que personne ne va faire, je vais lancer un challenge connecté. C'est notre concept. Donc, on vend une plateforme à l'année. Le business model, c'est un software. Et Quand ils le souhaitent, les décideurs peuvent lancer des challenges. Ça dure d'une semaine à un mois. Et pendant ce momentum, on a des milliers de collaborateurs, de collaboratrices qui vont être sur une plateforme, une application mobile, avec des contenus pédagogiques, des défis, des quiz, des sondages, des challenges collectifs à réaliser autour de ces sujets. Et l'objectif, c'est de dire la formation par le jeu amène des résultats plus probants, évidemment une motivation plus élevée. Et derrière, on est très data focus. Ça veut dire qu'on fournit énormément de données pour dire les collaborateurs ont appris, ont aimé, sont plus performants. Et donc, en plus de ça, on les fidélise puisque vous leur mettez à disposition une plateforme qui les amuse, qui les fait grandir et tout ça collectivement.
Alors, je suis sûre que Guillaume Dosinel a également plein de questions pour vous.
Oui, mais le problème, c'est que vous avez répondu à toutes mes questions. Non,
j'ai que 10 minutes, j'en profite.
Comment voyez-vous l'évolution de la gamification dans les RH dans les prochaines années?
Alors, je n'y ai pas répondu parce que ça, c'est ma vision plutôt globale. Là, je vais arrêter de pitcher WeLive. Pour moi, en fait, la gamification, il faut voir ça comme un nouveau moteur en entreprise. Il y a plein de gens qui pensent que gamification, ça veut dire loisir. On peut faire du jeu pour faire du jeu. Nous, on fait du jeu pour faire de la performance. Nous, on forme des commerciaux pour vendre mieux des parfums à Noël, avoir des meilleurs résultats par le jeu. On va faire monter en compétence des nouveaux collaborateurs dans une structure en faisant de l'onboarding par le jeu. Et donc, ce qu'on considère, c'est que ce qui était à l'époque un nice to have devient un must have. Et donc, la gamification, nous, on y va à 200%. Et on a pensé aussi à la data, c'est-à-dire de dire on fait du jeu, mais il faut que derrière, tu puisses calculer que ton jeu, il te permet de mieux vendre, de fidéliser tes équipes. Donc, je pense que d'ici 10 ans, la gamification va devenir au même titre que des outils CRM ou des plateformes qui, il y a 10 ans, ont explosé comme des Payfit ou des Alan sur des besoins primaires, une nouvelle réponse à des nouveaux besoins primaires dont je parlais au début de l'interview.
Quels nouveaux outils ou fonctionnalités envisagez-vous d'intégrer dans WeLive ?
Ça, c'est secret d'État, mais je vais quand même vous le dire. Là, on vient de lancer, par exemple, ce module de vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une structure comme LVMH peut, avec sa plateforme, qui est un de nos clients, lancer un challenge auprès de 10 000 vendeurs-vendeuses à travers le monde et valoriser la performance commerciale, c'est-à-dire intégrer des données de vente qui vont être transformées en points. Il va y avoir un classement au niveau monde et les collaborateurs vont pouvoir être récompensés. Mais derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corréler ça aux performances commerciales des magasins pour dire vos équipes s'amusent, ils montent en compétences et vous faites plus 2% de croissance sur le trimestre. Donc, on n'est pas sur un nice to have, on est sur un must have. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qu'on lance. Et l'année prochaine, on met aussi le paquet sur l'IA, c'est-à-dire que tout ce qui est traduction, tout ce qui est création de contenu, on travaille de plus en plus avec de l'IA parce qu'on gagne du temps. C'est évidemment beaucoup moins coûteux et la qualité des livrables est aujourd'hui exceptionnelle.
Comment WeLive aborde-t-elle les questions de diversité et d'inclusion au sein des entreprises ?
Alors, quand je parlais des sujets sérieux qu'on évoque, là, j'ai beaucoup accentué sur les sujets plutôt ROI, mais en fait, par exemple, on est en octobre, octobre rose, le mois prochain, c'est novembre, Movember, semaine du handicap. On a plus de 200 thématiques au catalogue qui sont clés en main, que nos clients peuvent lancer auprès de leurs collaborateurs pour justement les engager sur ces sujets d'impact. Donc, octobre rose, par exemple, dans des structures très féminines, c'est un sujet qui est plutôt simple à aborder. Dans une boîte comme Alpine Formula One ou XPO Logistique, où il y a 70, 80, 90% de mecs, je vous assure qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un papillomavirus, une mammographie. Et donc, le but, c'est de dire par le jeu, on peut leur faire apprendre en s'amusant, les challenger, aller titiller leur orgueil. Et derrière, ces projets-là financent des assos. Donc, on a des partenariats comme Café Joyeux sur la semaine du handicap, qui commence à être plutôt bien connu. Octobre rose, on travaille avec Ruban Rose. Et l'idée, c'est que sur ce marronnier-là, on puisse proposer à nos clients aussi des challenges qui sont plus clés en main pour répondre à ces besoins d'engagement, ces besoins d'impact et leur permettre aussi de financer des projets caritatifs.
Oui, c'est environ 150 projets à impact positif, hein, il me semble, avec 200 000 euros reversés à des associations sociétales et environnementales. Yoann Melloul a également des questions pour vous.
Oui, question un peu naturelle. Pouvez-vous nous décrire le business model de WeLive ?
Bien sûr, ça.
Comment l'entreprise gagne ça ?
Alors, l'entreprise, on a vite gagné notre vie, modérément nous en tant que fondateurs, mais on a vite pu payer des gens et les recruter parce qu'on s'est tout de suite mis dans une réflexion de générer du chiffre d'affaires. Donc, à l'inverse de l'expérience WeRun, rappelez-vous, où on a eu 50 000 utilisateurs, mais on était payé en barres de céréales et en maillot de running, en VIK, comme appelaient nos partenaires. Là, on s'est dit, il faut vendre. Donc, on a démarré en 2020 en vendant des challenges à l'unité à 2-3 000 euros pour des challenges d'une à quatre semaines pour des grands comptes. Et aujourd'hui, on a complètement transité sur ce qu'on appelle une software compagnie. Donc, le client achète une plateforme avec une licence sur 1, 2 ou 3 ans. Ça, c'est le premier niveau avec une licence indexée sur le nombre de collaborateurs ciblés. Et ensuite, elle va avoir des tokens, donc des unités de challenge à consommer, aussi bien un challenge Octobre Rose qu'une formation ou un onboarding. Et donc, il y a deux entrées, un abonnement avec une licence et ensuite de l'upsell, donc du réachat possible sur des unités de challenge qu'ils vont pouvoir faire au fil de l'année.
Donc vous avez créé votre société en 2019, sauf erreur, 2020.
2020.
2020. Comment est-ce qu'on finance ce développement aujourd'hui? Est-ce qu'on fait rentrer des investisseurs?
Alors, nous, on a été bootstrappés jusqu'au mois de mai de cette année. Donc, on a été très radin, très économe, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on a vraiment structuré nos dépenses. On n'avait pas peu d'investissements. On était beaucoup dans la méthode pirate, c'est-à-dire qu'on vendait avant d'avoir codé certaines features. On a eu la confiance de boîtes qui nous ont soutenus après des lancements un peu ratés techniquement, parce que tout est codé en interne, on externalise quasiment rien. Et on a décidé en fait de vendre au maximum, et ça nous a permis de vite être dans la rentabilité. Et on a levé des fonds cette année. On a fait une plutôt jolie levée de fonds qu'on va annoncer officiellement dans un mois. Donc là, je ne donne pas les chiffres, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de fortement accélérer. Et cette levée de fonds, on l'a faite uniquement pour ce qu'on appelle scaler, donc pour le passage à l'échelle, parce qu'on était rentable, on était sur une belle croissance de 30-40% par an depuis 2020. Et là, on s'est rendu compte qu'avec toute cette évolution du marché, c'était le moment, c'était le momentum pour prendre le marché, annihiler la concurrence aussi, c'est notre objectif, on ne s'en cache pas. Donc, on a levé des fonds qui vont nous permettre de dépenser et de scaler. En tout cas, c'est l'objectif.
Justement, dans le cadre des dépenses, est-ce que des sujets de croissance externe sont envisagés? Et si oui, sur quelle verticale?
Alors, pareil, je ne vais pas les citer, mais en fait, on était sur un marché qui était très concurrentiel les deux dernières années et on a réussi à structurer une solution qui gagne beaucoup les appels d'offres. Donc, on est en train de déstructurer un peu ce marché. On a deux acteurs qui nous ont sollicité pour potentiellement, indirectement, nous dire que tout allait bien, mais qui voulaient passer à autre chose, donc ils étaient potentiellement en vente. Aujourd'hui, on est bon en acquisition, et je pense qu'en termes de techno, on a la meilleure solution. Donc, si c'est pour racheter juste un portefeuille, je pense que c'est plus rentable de recruter trois bons sales, de les onboarder et d'aller, nous, les chercher tout seul. Donc, ça sera peut-être... Si on le faisait, ce serait plus pour racheter une techno, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de racheter de techno. Donc, à l'inverse, nous, notre réflexion, c'est plus de se dire à horizon 24-36 mois, on vise 10 millions d'ARR fin 2026, ça veut dire qu'on vise 10 millions de revenus récurrents, ce qui représente environ 200 entreprises avec un panier moyen de 50 000 euros par an. Ce n'est pas déconnant du tout par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Nous, notre objectif, c'est plus de se dire d'ici 24-36 mois, pourquoi pas réfléchir à nous, peut-être, discuter avec des très, très gros scale-up US qui voudraient prendre un marché Europe. On ne s'en cache pas, c'est aussi une exit qui peut nous intéresser. Je le verrai plus dans ce sens-là, mais pas tout de suite. Là, on est au début de notre aventure.
À suivre donc. Merci beaucoup Olivier Ouivet d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Merci également à vous Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et on se retrouve jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Merci.
Merci à vous.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.